Bonjour, je suis en compagnie de Sarah Moon Howe pour la sortie de son dernier documentaire intitulé « Celui qui sait saura qui je suis », film qui a été présenté au FIF à Namur et qui sortira sur nos écrans le 18 octobre prochain avec une avant-première le 16 octobre au cinéma L'Aventure à 19h30. Sarah Moon, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourrez-vous nous résumer en quelques mots le sujet, ou peut-être les sujets de votre documentaire, et nous expliquer les circonstances qui vous ont amené à vous lancer dans cette aventure, à la fois cinématographique, mais aussi humaine?
Alors, c'est un film en deux temps. C'est un film qui devait pas se faire, en fait. Donc, en fait, un jour, à un festival documentaire, en 2011, je présente un autre film sur le handicap de mon fils. Et on est en Ukraine, je quitte la salle, et là, il y a un homme qui m'attend et qui me dit « Voilà, je suis épileptique comme votre fils. Est-ce que vous seriez intéressé de venir voir l'envers du décor ici ?» De voir comment on traite les handicapés ici en Ukraine. Alors moi, je me dis, mais évidemment, quelle bonne idée. Enfin, je vais pouvoir sortir de ma problématique personnelle. Enfin, je vais pouvoir faire un vrai sujet qui pourra dénoncer des choses. Tout d'un coup, je me fantasme en journaliste d'investigation. Mais en fait, je réalise très vite que je n'avais pas l'étoffe ni les moyens de faire un grand reportage. Tout comme André, qui se présentait comme un défenseur des droits de l'homme, n'avait pas vraiment non plus les bagages nécessaires de se poser en tant que tel. Et donc, en fait, ce film, ce début de film, a commencé sur un malentendu. C'est une débrouille qui rencontre une autre débrouille. Donc, c'était un film qui devait se faire autour des hôpitaux psychiatriques, des institutions un peu pour les handicapés en Ukraine. Et puis, très vite, ça a dévié. Parce qu'au plus, je filmais Andrei, au plus, j'essayais de filmer mon sujet, au plus, il lui arrivait des choses rocambolesques. C'est-à-dire que mon personnage documentaire devenait, sous ma caméra, un héros de fiction. Et donc, j'ai arrêté le film. Et puis, 3 ans plus tard, j'apprends sa disparition. Et je me dis, ce coco qui s'est transformé sous ma caméra, qu'a-t-il encore inventé? Et je décide d'enquêter. Et là, au fil de l'enquête, en fait, je me rends compte d'abord qu'on n'est pas sûr qu'il soit vraiment mort, qu'il avait déjà annoncé sa mort avant, donc où est-il? Et je me rends compte que ce n'est pas vraiment ça la question cruciale. La question cruciale, c'est pourquoi cet homme a-t-il mis comme ça du mythe dans sa vie? Est-ce que finalement on n'a pas tous besoin de s'inventer autre pour supporter sa propre réalité?
Alors vous parlez, quand vous parlez de lui, vous parlez d'un personnage en fait. Et est-ce que vous diriez que le fait d'être filmé fait passer une personne de l'état de personne anonyme à l'état de personnage justement?
Effectivement. Qu'est-ce qui se joue dans la fabrication d'un film documentaire? De quelle fabrication s'agit-il? En fait, au fond, on pourrait se demander, entre le filmeur et le filmé, qui manipule qui? Alors, on croit qu'on choisit nos sujets, qu'on choisit nos personnages, mais n'est-ce pas finalement eux qui nous choisissent ou qui nous capturent? Et à partir du moment où on filme quelqu'un, c'est vrai qu'il devient un personnage sous notre caméra. Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce que lui a envie de montrer de lui-même? Et nous, filmeurs, est-ce que finalement on ne projette pas des choses sur cette personne et qu'on le fait devenir un personnage? N'est-ce pas finalement nos yeux qui le transformons?
Alors justement, vous vous intéressez beaucoup dans votre documentaire à ce lien dialectique, cette relation existentielle qui se noue, qui se crée, qui se développe entre celui qui filme et celui qui est filmé. Qu'est-ce qui vous a motivé à rendre visible quelque chose qui habituellement est dissimulé, masqué, où on fait tout justement pour faire en sorte que la caméra est presque invisible, je dirais?
Tout à fait, je suis très contente de vous poser la question. C'est vrai que c'est mon 4e film et que j'ai beaucoup voyagé dans les festivals avec mes autres films. Et je suis toujours étonnée d'entendre les réalisateurs lors des séances de questions-réponses dire que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mon personnage avait une grande confiance en moi, une grande réciprocité. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, moi j'ai fait des films, c'est vrai, sur des sujets personnels, mais quand même je sais que filmer quelqu'un n'est pas anodin. qu'il se passe des choses. Quand j'entends mes amis documentaristes, j'entends « Oh là là, mon personnage, il m'énerve, il me rend fou ». Évidemment qu'il y a quelque chose, comme en amour en fait. Au début, on projette des choses magnifiques sur son personnage, il va être porteur de nos idées, ça va être fantastique. Et puis petit à petit, comme en amour, les choses un petit peu se défont ou se crispent. Parce qu'on projette tous des choses sur les gens. Et je pense que ce n'est pas qu'en documentaire. On est des machines à projeter. On projette des choses sur nos propres vies, sur les autres personnes. Donc, est-ce qu'on veut vraiment voir les gens comme ils sont ou est-ce nos projections? Et je trouve que c'est vraiment une question qui a le mérite d'être soulevée et qui est peu soulevée en cinéma documentaire. Les coulisses du cinéma documentaire sont peu révélées. Et je trouvais ça une bonne façon pour moi de révéler un peu ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'au départ, le film ne devait pas du tout parler de ça. Et puis finalement, c'est parce que je filmais André, j'ai posé ma caméra sur lui, j'ai posé un regard sur lui qui s'est mis à inventer des choses de plus en plus dingues. Et je trouve que ça avait le mérite de le dire. Et puis ça a tout à fait lieu d'être dans ce film, puisqu'en fait, à la fin de mon documentaire, on comprend pourquoi mon personnage est comme ça accro à tous les regards du monde. On comprend qu'en fait, un regard au début de sa vie, sa mère ne l'a pas regardé, et donc c'est parce que ce regard-là manquait qu'il est devenu dépendant de tous les regards du monde et de ma caméra.
Est-ce que vous diriez que qu'Andrei, c'est un peu un homme enfant?
Andrei, c'est un homme... C'est un homme, effectivement, qui a été blessé, mais qui s'est quand même débrouillé. C'est un homme qui n'avait absolument pas d'instruction, qui venait d'une petite ville. Enfin, je parle de lui au passé, mais je ne suis pas encore sûre qu'il ait disparu. Vraiment pas encore sûre. Donc, il venait d'une petite ville dans l'ouest de l'Ukraine, peu d'instruction. C'était un vrai débrouillard. C'était quelqu'un qui adorait mettre de la fiction dans sa vie, et qui jouait, il jouait. Donc pour ça, il ressemble à un enfant. Mais finalement, je trouve que là, il nous donne une belle leçon, André. Il nous donne la leçon de nous dire, vous pouvez continuer à jouer, tout est possible en fait, tout est possible. Ce gars a quand même réussi à gruger le Conseil de l'Europe, Amnesty International, Human Rights Watch, le gouvernement français, parce qu'il a obtenu l'asile en 3 semaines en France, et une cinéaste belge qui était un petit peu naïve, je dois dire. Mais quand même, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Et il a joué, il n'a pas eu peur. Pour lui, il jouait comme un jeu d'enfant, c'est vrai, vous avez raison.
Alors, vous dites, oui, il a eu affaire à une réalisatrice un peu naïve. Vous avez un bagage en psychologie, le milieu de la psychiatrie ne vous est pas étranger. Est-ce que très tôt, dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas dit... J'ai affaire à un mystificateur, à un mythomane. Et est-ce que ce n'est pas ça qui vous a fasciné, finalement?
Alors, avec André, effectivement, très vite, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Parce que très vite, dans les premières heures, il me disait qu'il allait m'emmener dans les hôpitaux psychiatriques. Et en fait, il ne m'emmenait que dans les jardins des hôpitaux psychiatriques. J'allais dans un autre hôpital psychiatrique à Kiev, un hôpital pour les enfants. Il me disait qu'il fallait faire silence, qu'il ne fallait pas trop nous montrer notre présence. Mais j'avais l'impression qu'en fait, il me montrait des hôpitaux désaffectés. Mais vous savez, en Union soviétique, les choses ne sont pas comme ici. C'est vraiment un autre monde. Et donc, on se dit, c'est possible. C'est vrai que derrière cette porte capitonnée, il y a peut-être des enfants qu'on torture. Et donc, là, de nouveau, je trouve que j'ai bien... Enfin, il s'est joué de moi et c'est bien fait pour moi. C'est-à-dire que je suis l'Européenne qui a voulu aller voir les horreurs qu'on fait en Russie aux pauvres personnes handicapées et finalement, je n'ai rien vu. Et c'est bien fait pour moi parce que c'est mon côté voyeur qui n'a pas été nourri, si vous voulez. Et donc, peut-être qu'André n'avait rien à me montrer. Peut-être qu'il n'avait pas ce bagage pour me montrer des atrocités. Et donc... Il m'a promenée comme ça et je me suis laissée promener, mais c'est vrai que je me suis rendu compte très vite que je ne voyais rien. Et donc ma caméra s'est tournée de l'hôpital à lui, parce que lui, il était tellement fascinant. On se séparait par exemple le soir, on dormait chacun dans un hôtel, et puis il me disait que pendant la nuit, le KGB était venu dans sa chambre essayer de récupérer les rushs. Vous comprenez, des choses qui moi me fascinaient de plus en plus, parce que j'avais l'impression d'être dans un James Bond en fait.
Mais oui, mais c'est un petit peu le personnage de Catch Me If You Can de Spielberg quand on regarde votre documentaire, c'est un peu ça.
Tout à fait, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais je suis dans Catch Me If You Can, c'est extraordinaire, parce que j'ai pas tout mis dans mon film. C'est vrai qu'André a encore inventé des choses incroyables. Il a dit qu'il avait été qu'il était élève au Cordon Bleu, qui est une école prestigieuse de cuisine. Alors je me suis renseignée, je suis allée à l'école du Cordon Bleu, ils n'ont jamais vu Andrei. Pourtant, Andrei possédait la robe du Cordon Bleu, la blouse, qui est très difficile à obtenir, et plein de choses comme ça. Il arrivait, il s'achetait des magnifiques meubles en chêne, on se demande bien où il avait l'argent. Et donc, en fait, il se débrouillait, il arrivait vraiment à louvoyer dans la réalité pour s'inventer roi. Et finalement, comme dit un personnage dans le film, il ne faut rien, il ne faut pas de preuves. Il suffit d'arriver avec des beaux vêtements pour être roi, de poser ses mains devant soi comme ça et de dire « Baisez-moi les mains, je suis le roi ». On peut y arriver, c'est possible. C'est possible même maintenant dans une espèce de société d'hyper-traçabilité, il y a quelque chose de possible encore.
À un moment donné dans le documentaire, on voit qu'Andrei part, fâché. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'a lieu la vraie rupture ou c'est plus tard?
Exactement. Donc Andrei vient d'obtenir l'asile en France. Nous avons été à l'OFPRA, qui est l'Office de protection des apatrides et des réfugiés à Paris. Donc je l'ai conduit à son interrogatoire. C'est un vrai interrogatoire, hein. Donc les personnes réfugiées sont interrogées pendant plusieurs heures et je l'attends pendant 4 heures. Il sort de là complètement dépité et il me dit, ça n'a sûrement pas été, je n'aurai pas mon statut de réfugié. Et là, je veux prendre la caméra, mon côté peut-être un peu de nouveau vampire documentariste veut sortir la caméra pour avoir ses impressions à chaud. Et là, il refuse que je le filme. Et je suis fâchée, mais ça ne tombe pas comme ça, évidemment. Ça fait plusieurs mois qu'André me mène en bateau, qu'il a des demandes un petit peu de diva. Et donc c'est tout d'un coup la goutte qui fait déborder le vase. Je me dis, mais attends, ça fait plusieurs jours que je lui paye l'hôtel, que je l'accompagne. Enfin, je vis seule avec mon enfant. Donc quand même, il y a quelque chose pour moi d'un sacrifice de faire ça pour André. Et c'est pas si facile que ça. Et tout d'un coup, il veut plus que je sorte la caméra. Donc je pars fâchée, c'est vrai. Et on ne se voit plus. On ne se voit plus. La rupture est consommée. On ne se voit plus. Et pendant 3 ans, je ne le vois pas. Et ce n'est qu'à sa mort, en fait, que je reprends la caméra. Donc j'apprends sa mort par un mail d'Amnesty International, ce qui est quand même pas rien, qui m'annonce qu'André est mort. Et quand je me rends à son enterrement, je me rends compte qu'en fait, il est mort il y a 2 mois et qu'on l'enterre 2 mois plus tard. Et là, je trouve ça assez étrange, effectivement.
Et cette fuite, vous l'expliquez comment? Parce que ça donne un peu l'impression de quelqu'un qui se sent tellement empêtré dans ses mensonges, qui se dit maintenant mon personnage est en train de se fissurer, il faut que je quitte la scène avant de m'écrouler devant la caméra. Et donc il faut que je parte avec la dramaturgie de mon personnage à la mesure du tragique que j'ai créé. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez ressenti?
C'est exactement ça, vous avez mis les bons mots dessus, c'est exactement ça. André a voulu partir avec panache. Où est André? Alors ça, vraiment, même si je dis que c'est pas vraiment là la question cruciale, quand même, je me pose la question de où est André? On l'a enterré 2 mois plus tard, je suis allée à son enterrement, j'ai vu un cercueil, mais toutes les personnes présentes lors de cet enterrement, personne ne croyait à sa mort. Donc, où a-t-il disparu? L'a-t-on fait changer d'identité? Personne ne veut me le dire, évidemment. Je crois en fait vraiment à sa faculté d'avoir encore embobiné quelqu'un pour dire qu'il devait changer d'identité. Donc, c'est possible qu'il vit ailleurs dans un autre pays. Mais c'est vrai que de nouveau, il a voulu disparaître avec panache et qu'il a disparu. Et c'est ça que j'ai voulu aussi mettre dans mon film avec cette marionnette que je reconstruis et qui est une allégorie, qui est un. Oui, une allégorie de la fabrication de son personnage. Finalement, le personnage m'échappe, il sort du champ et c'est tant mieux. Et il sort du champ avec panache, dans le cas d'André.
À propos de la narration de votre documentaire, on ne suit pas une narration linéaire, chronologique, mais éclatée un petit peu, semblable à une démarche psychanalytique. Quand et comment avez-vous opéré ce choix?
Alors, évidemment, il y avait plusieurs temps. Et plusieurs temps lors de l'histoire, plusieurs endroits. Donc, C'était très très compliqué. C'est un film qui a été très compliqué à monter puisqu'il y avait le premier film avec les rushs et ensuite il y avait l'enquête. Donc comment mêler tout ça? On a décidé de mêler ça de façon avec des feedbacks parce qu'évidemment d'une façon linéaire, si on restait trop longtemps avec André dans le premier temps, c'était assez ennuyeux. Donc il fallait faire des allers-retours qui donnaient un éclairage aussi, qui faisaient un peu sens, qui faisaient des liens entre ce qu'il était, ce qu'il voulait être et comment je le percevais. Donc, effectivement, c'est pas linéaire et je pense que c'est plus intéressant comme ça. Voilà.
Quand on jette un œil à votre filmographie, qui est principalement documentaire, on remarque que vous abordez souvent des sujets qui vous touchent de manière très intime et qu'il y a chez vous le besoin de rescénariser des événements marquants, des tranches de vie marquantes dans votre vie. Est-ce que vous diriez que cette démarche qui est documentaire mais en même temps très artistique, c'est une manière de dégager du sens, de trouver un sens et de discerner peut-être avec un certain recul ce qui vous est arrivé.
Alors, comme André, je n'aime pas la réalité. J'ai besoin de mettre de la fiction dans ma réalité pour tenir le coup. André, c'était en menant tout le monde en bateau et avec des masques, et moi, c'était avec l'imagination et en faisant des films. La réalité triviale ne m'intéresse pas. J'ai vraiment besoin de mettre de la fiction dans ma vie. Et pourtant, je réalise quand même les documentaires. Alors, comment ça se fait? Eh bien, par exemple, mon premier film, c'était un film sur mon métier de stripteaseuse, parce que j'ai fait ce métier pendant 10 ans, plus de 10 ans. J'aurais pu filmer les stripteaseuses en caméra vidéo, en les écoutant avec un peu, elles ont des accents parfois forts. Elles racontent l'aspect pécunier, par exemple. J'aurais pu mettre l'accent là-dessus, mais j'ai préféré les filmer en Super 8, 400 ASA, pour mettre un filtre entre elles et moi, pour les sublimer un peu. J'avais besoin de sublimer la réalité avec ces stripteaseuses pour montrer en fait ce que je voyais. Et ce que je voyais, c'était des femmes qui traversent la forêt, des femmes qui essayent de s'inventer femmes, des femmes qui deviennent des surfemmes et qui font comme un rite d'initiation. Mon deuxième film parle de l'annonce du handicap de mon enfant et j'aurais pu, là encore une fois, me filmer face caméra, pleurant, mais j'ai préféré utiliser l'accessoire du masque. Dans le film, j'utilise un masque en fait d'une femme très très belle qui sourit. Et c'était un accessoire pour montrer un petit peu l'absurde de la crédulité en fait, de notre crédulité, de notre envie de voir la réalité comme elle est vraiment. Je trouve que la réalité comme elle est vraiment n'est pas très intéressante. Il faut mettre des filtres entre nous et la réalité. Et donc, c'est vrai que je rescénarise les événements de ma vie. Par exemple, dans mon film sur le handicap de mon fils, j'ai fait faire un faux ventre de femme enceinte et je suis repassée à travers ma grossesse. Par exemple, le yoga de grossesse ou la visite de l'hôpital avec un faux ventre. J'ai besoin de retraverser en fait ce que j'ai vécu pour pouvoir les raconter. Et ce film se rendrait, je suis aussi, j'ai retraversé les choses.
Alors vous dites, je n'aime pas la réalité, j'ai besoin de mettre de la fiction dans ma vie, mais est-ce que finalement, consciemment ou inconsciemment, c'est ce qu'on fait tous, on a tous notre capacité quand on regarde, quand on raconte notre histoire, certains événements de notre vie, on les rescénarise aussi, et quand on envisage notre avenir, on fait combien de scénarios par jour? Nous sommes des machines à projection, non,
Tout
finalement?
à fait, vraiment, et je suis vraiment contente que vous disiez ça. Effectivement, je pense que nous sommes vraiment des machines à projection par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, et c'est ça qui nous donne un fil rouge aussi, une conduite pour tenir le coup. Parce que si vraiment on voyait la réalité comme elle est, parfois ce serait très très dur. Donc on a besoin, je pense, de se projeter positivement et de s'inventer autre un peu peut-être. De s'incarner. Le matin, parfois, on se réveille, on se dit, ben voilà, aujourd'hui, je vais être cette femme-là, je vais m'habiller comme ça, ou aujourd'hui, je vais avoir ça dans mon esprit pour pouvoir tenir le coup. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Et je pense que on peut avoir un quotidien difficile, mais continuer quand même à tenir le coup, à se projeter en s'inventant, en se rêvant. Voilà. Et c'est ce qu'André a fait, et je crois que c'est ce que nous faisons tous. Mais c'est vrai qu'avec les dérives que nous connaissons, comme par exemple sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne montrent que ce qui va bien. Moi, j'aime aussi quand on fait tomber le masque et qu'on dit que c'est dur.
Oui, justement, par rapport au masque et par rapport à Henri, assez paradoxalement, on voit qu'on a affaire à un personnage qui prend différentes postures. Parfois, c'est la victime d'un pays homophobe. Parfois, c'est un militant engagé des droits de l'homme. Parfois, c'est un prince qui aime se la jouer en dépensant beaucoup d'argent. Mais petit à petit, les failles apparaissent quand même, notamment à la fin de votre documentaire. Donc, il y a de la fiction, mais en même temps, cette fiction permet d'atteindre un certain niveau de vérité.
Exactement. Mais j'ai plus rien à rajouter. Effectivement, mettre de la fiction dans sa vie peut avoir quand même, au niveau d'André, peut avoir des dangers, peut faire naître des dangers assez importants. Et c'est vrai que je pense qu'André, il s'est mis, comme disait une amie russe, il s'est mis dans un coin. C'est une expression russe. Il s'est mis dans un coin parce qu'en fait, il s'est tellement inventé de personnages, il catégorisait ses amis pour ne pas raconter des bobards à d'autres amis. Tout était très très compartimenté et c'était des tiroirs sans fond finalement. Et c'est vrai que qu'est-ce que ça révèle d'André? André, il a raconté des choses folles sur lui-même, mais quand je suis allée voir sa famille, j'ai vu la vérité, j'ai vu pourquoi il avait mis de la fiction comme ça dans sa vie. Et c'est marrant parce que cette vérité-là, il n'en avait jamais parlé, alors qu'il aurait tout à fait pu mettre ça en avant et on l'aurait compris. Il aurait même reçu l'asile pour ces raisons-là et il n'a jamais mis ça en avant. Donc finalement, ce qui est très fort, c'est que André a utilisé tous ses masques pour cacher la vraie vérité. Et quelle vraie vérité on cache? C'est très intéressant. Ça, c'est une question qui me taraude et qui est très présente dans mes autres films aussi. Quelle vérité on cache?
Alors, votre amour pour la fiction, est-ce que ça vous a jamais titillé de réaliser un long métrage de fiction, ou même un court métrage de fiction?
Alors, la fiction m'appelle, c'est vrai, mais je trouve que dans le cinéma documentaire, il y a quelque chose encore de plus fort que la fiction. Il y a cette réalité qui se fictionnalise tout le temps. Et capter ça, interroger ça, m'interroge plus que d'inventer des histoires et de les mettre en scénario.
Vous diriez que la réalité dépasse la fiction ?
Voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais effectivement, la réalité dépasse la fiction. L'être humain est riche, l'être humain est... C'est vrai que l'esprit humain, dans sa façon de se piéger lui-même, me fascine.
Alors, j'aimerais bien revenir justement à cette part visible de l'iceberg que vous faites émerger, justement, cette part invisible que vous faites émerger. Parce que, est-ce que finalement, votre documentaire ne nous amène pas non plus à poser un autre regard sur l'actualité, ou en tout cas sur la manière dont elle nous est transmise, avec des journaux télévisés qui sont de plus en plus mis en scène, des débats de toutes sortes qui ressemblent à des shows télévisés, et nous amener à nous dire, bon, on me montre telle réalité, je ne suis plus dupe de cette réalité, et je vais m'intéresser à ce qui se passe hors champ. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu l'effet que vous recherchez
Je ne peux pas parler en général. Vraiment, c'est très compliqué pour moi de parler en général. Je pense que c'est au cas par cas. C'est presque image après image qu'il faut regarder cette problématique. C'est vrai, que cachent les images? Mais bon, c'est pas nouveau. Que cachent les images? C'est une problématique qu'on se pose depuis des années, on va dire, 70, 60 déjà. Que cachent les images? Je ne vais pas faire de généralité. Que cachent les images que j'ai filmées d'André? Moi, je ne peux parler que de ce que j'ai filmé. Et c'est vrai qu'il y a quand même, je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas dans les écoles de journalisme, il faudrait affûter les élèves, effectivement, à se poser des questions, mais aussi peut-être le grand public, à se poser des questions d'où viennent ces images? Qui a filmé? Quel est son camp? Et quel intérêt il a à me montrer ça? C'est vrai que c'est une question qui doit rester dans les esprits quand on regarde n'importe quelle image.
Mais je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez déjà des nouveaux projets en tête?
Alors, j'accompagne le film sur Andrei. Je reste un peu obsédée par ce personnage, je dois dire. Mais
Il vous hante un peu comme un
il me
fantôme.
hante un peu comme un fantôme, tout à fait. J'ai reçu un mail très étrange il y a quelques mois, alors que le film venait d'être terminé, d'une plateforme de rencontre sur laquelle je ne m'étais pas inscrite, me disant qu'un certain Andrei Fedosov voulait me rencontrer. Quand j'ai essayé de cliquer là-dessus, rien n'est apparu, mais donc c'est étrange. Je me demande quand même où est Andrei, et c'est vrai qu'il continue à me hanter. Et là, j'ai été happée par un autre personnage qui s'appelle Boris Lehmann et qui est un réalisateur d'auto-fiction, d'auto-documentaire avec lequel je travaille sur son prochain film. Et là aussi, c'est une autre aventure.
On découvrira ça bientôt. Alors, je rappelle la sortie de votre documentaire Celui qui sait sera qui je suis, le 18 octobre sur tous les bons écrans, avec une avant-première le 16 octobre au cinéma L'Aventure à 19h30. Et là, on aura l'occasion de vous rencontrer.
Tout à fait. Et le 18 octobre, c'est au cinéma Aventure. Donc le film sera projeté à partir du 18 octobre dans les séances à checker sur Cinebelle, par exemple.
Je vous remercie.
Avec plaisir.